Bonjour à tous. Il est midi sur France Culture. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Mais tout de suite, les titres du journal présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Encore des blocages, des pénuries de carburant dans des dizaines, des centaines de stations-service, perturbations sur les routes, les ports, les centrales nucléaires également sont touchées. Puis il y aura de nouveaux défilés aujourd'hui. Cette contestation du projet de loi au projet de loi travail a pris une nouvelle ampleur. Donc aujourd'hui, huitième jour de mobilisation. Selon le porte-parole de la Fédération Énergie de la CGT, la grève a été votée dans les 19 centrales nucléaires françaises, mais un porte-parole d'EDF affirme qu'il y a toujours des équipes minimales qui sont présentes dans les centrales pour assurer leur fonctionnement. On fera le point naturellement sur ce conflit. Et puis cette crise semble créer des dissensions au sein même du gouvernement entre ceux qui veulent revoir finalement cet article 2 sur l'inversion des normes, très contesté, et Manuel Valls qui lui semble vouloir ne pas y toucher. Manuel Valls qui va recevoir en tout cas les acteurs du secteur pétrolier après-demain samedi à Matignon. À l'étranger, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton essuie un nouveau coup dur dans le scandale politique de ses emails qui l'empoisonne maintenant depuis plus d'un an et demi. Un audit gouvernemental fustige l'usage d'une messagerie privée lorsqu'elle pilotait la diplomatie américaine. Et puis on parlera de cette étude parue dans la revue Lancet sur les liens entre chômage et cancer, puisque la hausse du chômage et les coupes budgétaires dans le secteur de la santé consécutif à la crise financière de 2008 aurait contribué à une surmortalité par cancer de plus d'un demi-million de personnes dans le monde, précision avec Anne-Laure Chouin. Voilà pour les titres, c'est à vous Caroline, la Grande Table.
Hier nous vous proposions une rencontre musicale autour du piano, de Schubert et de l'amour de la musique classique. Eh bien, hasard de l'actualité culturelle et coïncidence, disons, de la programmation de la Grande Table, nous avons organisé le même dispositif aujourd'hui avec un musicien et une romancière, même si les deux artistes d'aujourd'hui sont des artistes confirmés, et même si aujourd'hui c'est au tour du jazz, place donc à l'improvisation. Bonjour Agnès de Sarthe.
Bonjour Caroline.
Vous riez déjà tous les deux, Richard
oui.
Galliano, bonjour.
Je cherchais René Urtreger, il a vraiment changé de style. Là.
Non, c'était pas lui, c'était le générique de la Grande Table. Ah, René
oui,
Urtreger, évidemment, il faut expliquer à nos auditeurs, René Urtreger, c'est le sujet, l'homme qui est le sujet de votre livre, Le Roi René, Agnès de Sarthe, qui apparaît aux éditions Odile Jacob. René Urtreger est un personnage vivant, il a 81 ans, il est en pleine forme, vous lui consacrez cette biographie romancée, ce roman biographique. Nous verrons cela avec vous. Richard Galliano, vous êtes un accordéoniste, bandéoniste, compositeur. Et puisqu'un seul album n'était pas suffisant, eh bien nous en avons deux d'un coup en ce printemps pour le bonheur de nos oreilles. Mare Nostrum 2 en trio avec le pianiste Jan Lundgren et le trompettiste Paolo Fressu. Et puis Mozart en sextette ou en sextuor, je ne sais même plus comment on dit à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous êtes six, vous, et puis deux violons, un violoncelle et une contrebasse. Vous êtes cinq, en fait, je dis six.
Il y a un alto aussi.
Il y a un alto, c'est ça. Je me disais, mais j'ai mal compté, là. Agnès de Sarthe, avant de vous lancer dans cette biographie donc de ce grand pianiste de jazz qui est René Urtreger, est-ce que vous êtes, ou vous étiez, une amatrice de jazz?
Ah oui. Ouais, j'ai toujours été, oui d'ailleurs même toute petite, et je pense pas que ça aurait été possible d'écrire ce livre si ça n'avait pas été le cas. Parce que ce livre, j'avais jamais prévu dans ma vie de faire un jour la biographie
de
qui que ce soit, à vrai dire. Oui, je pensais jamais faire ça. Et ça a été le fruit d'une rencontre. Et cette rencontre a donné lieu à un livre, à la fois parce que René Urtreger est un personnage exceptionnel et un merveilleux personnage de roman. Donc ça donnait très envie à l'écrivain que j'étais de fabriquer quelque chose à partir de cette matière première géniale, mais aussi parce que le jazz, c'était ma musique depuis l'enfance. Donc c'est vrai que pour lui aussi, c'était important parce que d'une certaine manière, il voyait qu'il était, quand on a commencé à travailler ensemble, il a vu qu'il était... Comment dire, ça l'a mis en confiance. Je sais, quand on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai dit comme ça à un moment que je chantais des thèmes de Thelonious Monk à mes enfants pour les endormir. Et je sais qu'il a pensé, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui raconte n'importe quoi? Et puis, quelques temps plus tard, il se trouve que mes enfants passaient par là et fredonnaient des thèmes de Thelonious Monk. Et il s'est dit, ah, tiens, peut-être qu'on va pouvoir bosser ensemble. Donc, ça a été aussi le fait que je connaisse le jazz et que je l'aime a été un facteur d'apprivoisement très important.
Oui, d'apprivoisement parce que vous parlez de René Ortreger comme d'un animal sauvage, ouais. Agnès de Sartre, puisque vous regrettiez que nous n'entendions pas sa voix à l'instant, au début de cette émission, Richard Galliano. Je vous propose de l'écouter, René Ortreger. Oui. C'est une archivina de France Musique qui date de 1990. 25 ans plus tard, elle n'a peut-être plus tout à fait la même voix, mais je crois que c'est le même personnage.
Le jazz, pour moi, c'est ça ne doit pas être prétentieux. C'est une musique qui doit être jouée en public, d'ailleurs, comme toutes les musiques. Elle ne doit pas être jouée dans un bureau, dans un laboratoire. Elle doit être au contact des gens, je pense. La musique a toujours été au contact des gens. Je pense que, je ne sais pas, il me semble que les voisins de Schubert... les voisins de Schubert devaient être parfaitement capables de chanter les mélodies que composait Schubert, je veux dire. Et Schubert, quand il écrivait sa musique, il n'avait pas l'impression de faire de la grande musique. Il faisait de la musique, c'est tout. Il faisait de la belle musique.
Richard Galliano.
Oui, en écoutant René parler, je pensais à une phrase de Debussy qui disait « La musique doit simplement se contenter de faire plaisir et toute complexité est le contraire de l'art ». Et c'est dans toutes les musiques, qu'elles soient classiques, qu'elles soient jazz ou autre, voilà, à partir du moment où elle véhicule des émotions et que voilà, c'est ça le but de la musique.
Une belle définition de la musique.
Et ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est vrai, on pense toujours à, je pensais à Pierre Boulez par exemple, qui avait vraiment une opinion du jazz terrible, et parce que je pense qu'il est, voilà, il n'aurait pas pu écrire un livre sur le jazz parce que c'est quelque chose qui l'intéressait pas. Et quand on connaît ni le langage, ni alors on a l'impression on met tout dans le même sac, on met tout. Et c'est ce qui est un grand musicien comme Boulez est passé à côté du jazz, ça on peut le dire.
Agnès de Sartre disait que la vie de René Ortreger était une vie romanesque, c'était un formidable personnage de roman. C'est aussi ce livre, Agnès de Sartre, l'occasion de retracer toute une histoire du jazz, ou en tous les cas au XXe siècle, parce que René Ortreger, qui est quand même pas très connu du grand public, il faut bien le dire, malgré sa vie, René Ortreger, il a été formé à Chopin et inspiré par Charlie Parker, il a joué avec les plus grands, comme vous, Richard Galliano, vous avez Chet Baker en commun, Lionel Hampton, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Lester Young. Il a enregistré avec Miles Davis la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud. Il a aussi participé à l'aventure Yéyé avec Claude François et Sacha Distel. Comment se fait-il que vous... Enfin, vous l'avez peut-être croisé quand même, Richard Galliano, vous qui avez joué aussi avec tout le monde. Claude Nougaro, oui. Barbara, Reggiani, Brigitte Fontaine, Al Foster, Juliette Gréco, Aznavour, Petrucciani, André Manoukian, Michel Portal, Bobby McFerrin. Et j'en passe. Vous avez croisé?
Oui, on s'était rencontrés, mais il y a de nombreuses années, au Petit Opportun. Et c'était Maurice Vander qui m'avait présenté à René. Voilà, mais ça fait peut-être 35 ans depuis, on s'est rarement croisé. Et oui, moi, je peux dire dévoré votre livre, parce que c'est vrai que c'est une vie tellement... C'est captivant, quoi. On peut pas dire intéressant, ce serait pas vraiment le mot... juste captivant. J'ai lu ce livre comme un roman, parce que cette vie qui commence par le sommet, quoi, la rencontre avec Miles Davis, puis après ce conflit de génération, parce que les yéyés, c'était ça. Le monde de l'accordéon a subi aussi ce entre guillemets le mal qu'on fait un peu quelque part les chanteurs yéyés, quoi, parce que l'accordéon, c'était pareil, c'était tout dans le même sac. On mélangeait André Verschuren et Gus Wieser, vous voyez. Alors que Gus Wieser, c'est le Charlie Parker de l'accordéon. Mais c'est les conflits de génération. C'est pour ça que j'ai attendu une vie, finalement. Moi, aujourd'hui, j'ai 65 ans. Pour enregistrer Mozart à l'accordéon, parce que 10 ans auparavant, j'aurais tapé à côté, quoi. Il fallait, voilà, j'ai entendu sans préméditation, mais bon, le fait que deux gramophones me demandent, pour moi, c'est un aboutissement, mais presque un peu une petite revanche par rapport à cette époque yéyé. Moi, ça correspondait à mon adolescence. Et voilà, c'est ce qui a forgé un peu, qui a tracé ma destinée, quoi.
En même temps, ce n'est pas le premier compositeur de musique classique auquel vous vous attaquez, Richard Galliano. Bach, Vivaldi sont déjà parmi les disques que vous avez faits.
Ben, en fait, il faut savoir que l'accordéon est un instrument très récent. Mon instrument date tel qu'il est, des années 50, vous voyez. Donc, bien sûr, il n'existait pas à l'époque de Bach, de Mozart. C'est un orgue portatif, expressif. Et finalement, cet handicap de cette époque des années 60-70, finalement, s'est retourné à l'avantage. Parce que au moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je sois au milieu d'un essaim, un écrin plutôt, de musique classique, en l'occurrence le quintet. Et là, l'accordéon devient un instrument classique. Alors j'ai le choix de prendre une partition de flûte, de clarinette, de clavecin, parce que c'est un instrument, comme le piano, c'est un orchestre, pas en miniature, mais voilà, on peut penser orchestre quand on joue.
Il y a l'instrument, en l'occurrence l'accordéon ou le bandéon pour vous, Richard Galliano, le piano pour René Urtreger. Il y a l'instrument, mais il y a aussi ces liens très particuliers entre la musique de jazz et le classique. Hier, puisque je rappelais cette émission, hier à cette même table, le pianiste Lucas Debargue nous disait « Mais le jazz, c'est une discipline beaucoup plus exigeante que le classique. C'est vraiment quelque chose qui nous demande beaucoup plus de pratique, de savoir. » Et c'est du côté de la pulsation. Il nous disait, c'est impitoyable le jazz. On peut pas faire semblant. Et en même temps, ça dialogue en permanence,
oui,
le jazz et le classique.
Je pense que c'est un peu une erreur de faire des cloisonnements comme ça, parce que ce soit les jazzmen ou les musiciens classiques, les vrais, ils parlent le même langage. Vous voyez, moi, je lisais une phrase de René Urtreger dans le livre qui disait, il parlait du choix de la bonne note, comme chez Chopin, ou dans le bebop, et Nadia Boulanger disait la même chose. Donc, on trouve les mêmes musiciens, que ce soit dans le classique, que ce soit dans le jazz, des gens qui ne trichent pas, qui jouent vraiment d'une manière très sincère, avec cette approche, quoi, de l'artiste, avec l'humilité aussi, l'envie d'être lisible aussi, pour que le message, il y a des moments où vous parlez de cette chose-là par rapport à l'attitude de René Urtreger par rapport au public, parce que il n'a pas une attitude comme ça de jouer pour soi. Il joue pour lui,
non, voilà,
et
oui.
Il joue pour lui et pour les
et
autres.
Pour le public.
C'est ce que disait Duke Ellington aussi, je crois. Et chez les musiciens classiques, c'est la même chose. Et cette notion de swing aussi dans le classique.
Elle existe aussi dans le classique.
Ah oui.
Parce que c'est ça la grande musique de René Urtreger, c'est le swing quand même.
Ouais. C'est ce qu'il a de spécial. Enfin, c'est pas la seule chose qu'il a de spécial, mais c'est vrai qu'il y a à la fois. Et ce qui est amusant, c'est que c'est dans sa façon de jouer, c'est extraordinairement présent. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, ça swing. Et sa manière de parler
est swingante.
Sa manière de raconter aussi. Donc je crois que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui habite son être complètement, qui le quitte jamais.
Bien sûr. Ouais. Mais finalement, ça aussi, c'est une chose naturelle. Des fois, on entend un orchestre jouer, on dit « Oh là, qu'est-ce que ça swing
ouais. !»
Mais finalement, c'est normal que ça swing. C'est lorsque ça swing pas que c'est pas normal. C'est ça.
Allez, on va écouter un piano solo. On a gagné, René Urtreger.
Thank you.
On l'entend bien, hein, on a gagné. Vous riez d'ailleurs, Agnès de Sarp, c'était une blague, faites ce morceau.
Ouais, c'était une blague, mais c'est une blague tout du long, parce que c'est que des citations sans arrêt, pas une citation à l'autre. C'est vraiment un jeu de... Et je me souviens que quand j'en avais parlé avec lui de cet album, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce on a gagné? Et il m'a dit, mais il restait de la place sur le disque, on ne savait pas quoi faire. Alors j'ai inventé à partir de on a gagné, parce que ça m'amusait, quoi. Et ça, c'est peut-être ce qui impressionne les musiciens classiques, et ce pianiste était dans une humilité de musicien aussi, mais quand il admire le jazz, c'est peut-être le risque qu'il y a à inventer et à se lancer. C'est-à-dire que le musicien de jazz, il est un compositeur instantané, sans arrêt. Il compose, il décompose, il recompose, il est sans arrêt en train d'inventer la musique qu'il fait au fur et à mesure qu'il la produit. Et ça, je crois que c'est presque inquiétant pour certains musiciens qui ont l'habitude et que ça rassure de pouvoir s'installer dans les bras d'un compositeur, d'une certaine manière.
Richard Galliano.
À la fois, c'est difficile de s'investir à fond dans les deux choses, parce que c'est contraire. Lorsqu'on joue le jazz, on a simplement une partition avec la mélodie et les accords, ou comme ce qu'on vient d'entendre, c'est bon, une grille harmonique, et on improvise en toute liberté. Avec le classique, on a une partition qui est par exemple Mozart, on peut pas changer une note. Et si non. On change une note, tout se détruit. Et c'est difficile d'avoir ces deux rigueurs. Souvent, les musiciens de jazz ne sont pas de très bons lecteurs. Alors si on leur met une partition, alors là, des fois, ça les calme un peu. Et inversement, si on dit à un musicien classique, allez, vas-y, improvise, ils sont tétanisés. Alors moi, j'ai essayé de faire les deux, parce que mon instrument n'appartient ni au jazz, ni au classique. Alors ça me laisse cette liberté.
Quoi. Oui, ça vous laisse une liberté. Rien ne vous arrête, Richard Galliano, avec l'accordéon.
Je suis autant intéressé par toujours été autant intéressé par le jazz que par le classique, par la chanson aussi, par... vraiment des choses très 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 différentes, quoi.
Alors on va y en écouter un de Mozart. On va écouter la sérénade numéro 13 en sol majeur, dite petite musique de nuit, revue et corrigée par vos soins. Richard Galliano, il y a cette sérénade, petite musique de nuit, mais vous avez aussi enregistré la sonate habituellement pour piano, le quatuor pour flûte et trio de cordes, le concerto pour clarinette ou encore l'adagio pour harmonica de verre. Et là, nous voilà avec de l'accordéon, avec même un bandoneon une fois, et puis un quintet à cordes. Comment vous y êtes-vous pris pour retravailler
en fait,
Mozart?
C'est vraiment très simple. Parce que moi, en l'occurrence... Le morceau qu'on vient d'entendre, je double la partie de premier violon. Donc Bach faisait souvent ça avec la flûte qui double le. Donc c'est pour donner une autre couleur. Et puis aussi, on voit que l'accordéon, moi j'adore les unissons avec tous les instruments. En l'occurrence avec Bertrand Cervora qui est le premier violon, on a vraiment une osmose lorsqu'on joue, vraiment. On a exactement le même time, comme dans le jazz d'ailleurs, voyez. On a la même manière de la même respiration, le même phrasé, ce qui nous permet de jouer vraiment collé comme ça. Quelquefois, on ne sait plus si l'accordéon est là ou pas. Hein,
c'est ce qui est très spécifique, c'est justement la la texture que ça donne, elle est très étonnante. Le mariage corde accordéon est troublante parce qu'effectivement parfois ça se fond, ça se chevauche et puis parfois on ne sait pas pourquoi on le revoit. Mais dans Mare Nostrum, le mariage entre le cuivre et l'accordéon est aussi complètement troublant. Et ce travail sur la texture, c'est très, c'est quelque chose de très intéressant.
Richard Galliano, le travail sur la texture.
Je suis d'accord avec
la texture de l'instrument.
Et notamment avec la trompette. La première fois que je me suis aperçu de ça, c'était avec Chet Baker, lorsqu'on a fait ce disque. Et tous les unissons, parce que trompette plus accordéon, c'est pas les deux instruments, ça crée un nouveau son, quoi. C'est un autre son. Même chose avec le violon, avec le violoncelle, avec alors c'est vrai qu'aujourd'hui on écrit beaucoup de musique contemporaine. Je vais pas dire contemporain parce que ce serait méchant, mais quelquefois c'est un peu contemporain. On utilise l'accordéon, mais on utilise l'accordéon pour ses possibilités harmoniques comme un harmonium. Alors que moi, la leçon que je tire de Mozart et de Bach et de Vivaldi, c'est justement ce travail sur le timbre, soit en unisson, soit en solo, mais de considérer que l'accordéon a un timbre qui véhicule une émotion très forte, comme le bandoneon aussi. Mais une seule note, un accord, c'est bien sûr qu'on peut faire beaucoup d'harmonies, mais les harmonies, je préfère les faire au piano, par exemple, parce que il y a plus d'espace, il y a plus l'accordéon. Ce qui est très beau, c'est une seule note comme ça, quoi.
Oui, Richard Galliano, c'est aussi quelque chose qui permet peut-être de donner une nouvelle écoute de ces musiques, une écoute rafraîchie ou perturbante au départ, mais pour réentendre ces musiques avec une oreille différente.
Oui, bon,
tout simplement.
C'est un autre éclairage. Par exemple, le concerto pour clarinette, d'ailleurs, qui n'est pas écrit pour clarinette, il est écrit pour corde basset.
Un instrument qui n'existe plus.
Qui n'existe plus et qui a une tessiture plus grave que la clarinette. On a l'impression que c'est écrit pour l'accordéon. J'ai pris un grand plaisir à jouer ça. Et puis, bon, c'est assez délicat quand même. Toute la musique de Mozart est très délicate parce que, à première vue, ça paraît simple et c'est jamais simple.
Agnès de Sarthe, vous nous disiez que vous n'imaginiez pas, avant de rencontrer René Urtréguer, écrire une biographie. Vous êtes habitué aux romans, aux personnages de fiction. Est-ce que vous avez constaté qu'on ne travaille pas de la même façon, nécessairement, un livre, une matière écrite, avec un homme vivant, que quand on la travaille avec un personnage fictif?
Il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui se rapprochent. Je me suis trompée en pensant que ça allait être plus facile, par exemple. Je m'étais dit, j'ai tout ce qu'il me faut, il y a une vie extraordinaire, des hauts, des bas, des gouffres, des réussites fulgurantes, de l'autodestruction, du drame, de l'amour. Je me disais, j'ai qu'à suivre.
La matière est là.
La matière est là, tout est là. Et puis, un personnage qui parle, et à chaque fois qu'il parle, c'est extraordinaire. Quoi qu'il raconte, c'est intéressant. Donc, je me suis dit, j'ai qu'à faire le scribe. Et c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que d'une part, il est très exigeant, d'autre part, il est extrêmement pédagogue, et donc il avait aussi des tas de choses à raconter sur le jazz, et il fallait à la fois mélanger la musique, la vie, que ce soit, une seule matière, et que pourtant on puisse apprendre des choses et qu'on soit qu'on aille d'une époque à l'autre, parce qu'il y avait aussi la traversée de, il y a pas seulement l'histoire du jazz qui est vraiment là, et il y a aussi l'histoire du 20e siècle qui est manifeste, et on passe d'une époque à l'autre. Donc tout ça, c'était aussi un travail particulier, mais ce qui était aussi ce que j'avais à cœur de faire, c'était de refabriquer sa voix à l'écrit. Il a une voix et une façon de s'exprimer extraordinairement spécifique, et qui était, pour moi, arriver à... Parce que si vous mettez de l'oral directement, si vous déversez, si vous écrivez vraiment ce qui est enregistré, ça donne un matériau qui n'est pas vraiment exploitable à l'écrit. Donc il fallait le retravailler, mais c'était une certaine façon de faire de la musique en écrivant.
Oui, c'est presque un travail de musicien ou de réinterprétation. Richard, oui. Galliano, vous quand vous partez d'une matière comme le classique, en l'occurrence Mozart, ou bien quand vous créez, comme vous le faites sur cet album, Mare Nostrum 2, qui fait écho bien sûr à Mare Nostrum 1, où chacun des membres du trio a composé quelques morceaux, je pense que c'est à peu près le même type de travail. Vous dites, avec Mozart, j'ai la matière, mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile.
Mais finalement, il n'y a pas trop de préméditation. Quoi. On ne sait jamais où on met les pieds, vraiment. Chaque fois, il faut se laisser aller un peu dans les différentes aventures, entre guillemets, on peut dire. Mare Nostrum, c'est une autre histoire que le Mozart, bien sûr. Hein. C'est vrai que cette vie de René Oertreger, c'est vraiment, par rapport à la musique, c'est pour ça que lorsqu'il joue, il a de quoi raconter. On entend tout à l'heure ce qu'on entendait, les phrases, c'est comme quelqu'un qui parle. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont la chance, peut-être, d'apprendre dans des écoles de musique. Mais on s'aperçoit que, voilà, quand on fait toutes ces expériences de ce chaos, ce parcours chaotique, ça amène ailleurs, et la musique en sort...
Grandi.
Allez, ce sera le mot de la fin.
Ça, on n'apprend pas ça à l'école. Non.
Ce sera le mot de la fin, Richard Galliano, d'autant que vous parlez des jeunes et que nous allons écouter une de vos compositions sur Mare Nostrum 2 qui s'intitule Lily. Et je crois que c'est...
Ma petite fille.
Et ben voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Richard Galliano, Mare Nostrum 2 et ce Mozart chez Deutsche Grammophon. Vous serez en concert le 29 juin à Trélazé, le 7 octobre au Nancy Jazz Pulsation, le 19 novembre à Paris, salle Pleyel, au Blue Note Festival, et le 4 décembre au Théâtre des Champs-Élysées, toujours à Paris.
Là, je pars en Russie et en Chine, avant ça.
Eh ben, bon voyage. Merci beaucoup à vous, Agnès de Sarthe, le roi René Oertreger. C'est chez Odile Jacob. Merci à tous les deux.